disons, la plus précise de la notion de Hakedat Yitzhak, qu'il ne s'agit pas de sacrifice, mais de ligoter, d'atténuer l'homme de la Midat Hadin. Vous vous rappelez de cela? Et c'est très important d'un point de vue de signification très générale de l'identité humaine, c'est le problème de la relation entre un père et son fils, mais qui nous est particularisé à travers les structures de l'âme hébraïque. Et vous rappelez, je vous ai signalé en passant, que dans d'autres profils humains, le fonctionnement de ces structures est tout à fait autre et qu'il ne faut pas projeter l'un sur l'autre. Vous comprenez le problème? Vous comprenez par exemple que si un grec lit le Hakedat Yitzhak, il va y lire l'envers du complexe d'Œdipe. Et il ne pourra pas penser à ce thème sans penser à un sacrifice accompli, à un meurtre accompli. Vous comprenez le problème? Et c'est ce qui est arrivé, grosso modo, à la lecture chrétienne de ce texte, et en particulier à son intitulé « Le sacrifice d'Isaac ». Alors que c'est une hérésie totale dans la mentalité juive. Ça n'existe pas. Ça s'appelle « Hakedat Yitzhak ». C'est clair jusque-là. Bon. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue une fois avec un prêtre, et tous les chas shalom sont possibles avec eux. Ils me disaient « Oui, la première fois ça n'a pas réussi, mais finalement ça a réussi ». Vous voyez à quoi ils pensent? Alors, vous voyez qu'il y a des niveaux de mentalité où le dialogue est impossible. Parce qu'il y a des structures a priori du psychisme. Il faut employer le terme grec de la psyché, c'est encore plus précis que le psychisme. La manière dont chaque identité humaine s'est choisie de se constituer. Et en fin de compte, elle se cristallise dans une attitude générale à tous les niveaux, culturels, spirituels, religieux, politiques, etc. Et c'est inconvertissable. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Et là, bon, simplement, je vous signale cela en passant. Attendez, je vais ajouter juste une phrase avant que j'oublie. Il peut vous arriver de rencontrer des juifs qui parlent comme ça, qui ont été tellement imprégnés par cette mentalité générale de la spiritualité entre guillemets occidentale, que très naïvement, de bonne foi, ils pensent que c'est comme ça qu'il faut dire pour faire bien avec les choses juives. Vous comprenez ce que je veux dire? Méfiez-vous un peu de ces transferts de structures culturelles. Vous suivez ce que je veux dire? Tandis que lorsqu'on étudiera la Shoah, vous verrez qu'il y a une. Nous étudierons aussi, et j'espère qu'on aura suffisamment de temps, sept thèses différentes d'explication de la Shoah. Le problème philosophique et théologique que ça pose, comment une chose pareille était possible. Et si on récapitule un peu tout ce que les auteurs contemporains ont essayé de formuler comme thèse ou hypothèse, il y en a grosso modo sept, on en critiquera six, et on en retiendra une septième. C'est une coïncidence que ça marche comme ça, six et sept. Mais une d'entre elles, qui est centrale et commune aux théologiens chrétiens, à certains théologiens juifs occidentaux, c'est de dire que la Shoah est une illustration de Hakedat Yitzhak en traduisant le sacrifice d'Isaac. Mais on oublie que le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu et que cette comparaison est illégitime. Est-ce que c'est clair? Et Elie Wiesel qui racontait une fois, qui parlait une fois de cela, en disant au moment du sacrifice d'Isaac, un ange est intervenu. Mais au moment de la Shoah, 6 millions de fois, l'ange n'est pas intervenu. Alors, on voit bien que l'analogie est illégitime. Comprenez le problème. Seulement, elle va de soi pour une certaine mentalité. Et cette mentalité est extrêmement dangereuse parce que ça situe Israël comme candidat à cela de façon légitime. Alors, toutes les persécutions sont possibles, puisque ça sert à ça. Vous avez compris le. C'est clair. Il faut vraiment se méfier de l'envahissement de cette mentalité dans le milieu juif lui-même. Or, on a été intoxiqué par ça. Vous avez remarqué combien de temps il a fallu passer pour passer de la notion sacrifice d'Isaac et la barrer, mettre une croix dessus, et passer à la notion de Hakedat Yitzhak. Vous avez remarqué ça. Top. Alors, je voudrais vous citer ce commentaire sur lequel je me suis basé sur ce principe, et tu me poseras ta question juste après. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sacrifice, mais que les mains du père, c'est-à-dire de la Midat HaChesed, doivent ligoter le fils, c'est-à-dire la Midat HaDin, de telle sorte que la Midat HaEmet soit possible. C'est clair jusque-là. Réfléchissez bien la formule, je crois que c'est la plus simple formule qu'on pourrait proposer pour cela. Alors ce commentaire qui se base bien sûr sur des sources, qui se base elle-même sur des sources, qui se base sur des sources, à l'infini, c'est finalement ce qu'on appelle le Maor Vashemesh. Qu'est-ce que ça veut dire Maor ? Lumière. Vashemesh, soleil. Bon, c'est un commentaire d'un Chacham Ashkenaz, dont je vais donner le nom, qui est un commentaire sur un commentaire très célèbre d'un des plus grands rabbins du Maroc, qui s'appelait Rav Haïm Ben Attar. Vous avez entendu ce nom-là? Oui. Jamais?
Oui.
Et son commentaire s'appelle le Or Ahaïm. Or Ahaïm. Ahaïm. Il y a deux luttes. Ahaïm. Il y a deux luttes. C'est-à-dire la lumière de la vie. Vous savez que les rabbins ont l'habitude, dans le titre de leur commentaire, d'introduire une allusion à leur propre nom. Vous savez ça? Le commentaire de Or HaChaim a eu. Il y a deux Maor Vashemesh, un de Chacham Sfaradi, mais c'est celui-là qui est le commentaire du Or HaChaim. Il y a un deuxième commentaire qui est très important sur le Or HaChaim qui s'appelle le Be'er Ma'im HaChaim, qui a été aussi fait, c'est aussi fait par un Ashkenaz à Chassid. D'ailleurs, je vais dire quelques mots du Rav Haïm Ben Attar, et ensuite je vous parlerai du maître de ce commentaire. Oui, le Rav Haïm Ben Attar est contemporain du Baal Shem Tov. Et il y a une tradition chez les Chassidim et chez les disciples du Rav Haïm. D'ailleurs, chaque fois que vous rencontrez un juif qui s'appelle Attar ou Ben Attar, il fait plus ou moins partie de cette famille, que le Rav Haïm et le Baal Shem Tov étaient amis intimes, bien qu'ils ne se soient jamais vus. Un était au Maroc, et là c'était. Je ne sais pas où ça passait. Et vous entendrez beaucoup de Sipurim à ce sujet. Mais il y a une chose qui est intéressante pour nous en Israël, c'est qu'il était enterré au cimetière de Har HaZetim. Et en 48, les Jordaniens ont occupé la vieille ville et détruit le cimetière, enfin une grande partie du cimetière. Ils se sont arrêtés à la tombe du Or HaChaim. Et elle est actuellement, depuis avant, mais surtout depuis, un lieu de pèlerinage pour tous ses descendants. Et je ne sais plus quel jour de l'année, mais je vous le dirai si ça me revient. Alors tous les Ben Attar du monde entier se réunissent autour de la tombe du Or HaChaim. Top. C'est le nom de son commentaire. Et son nom, c'est le Rav Haïm Ben Attar.
C'est dans
cette tombe, cette bagnole. C'est possible. Tu as entendu parler de ça? Par exemple, Claire, du centre Yahir, c'est une descendante, elle s'appelle Atta. Et aussi par son père. Top. Bien. Alors, le commentaire maintenant du Maor Vashemesh, c'est un rabbin de Lituanie qui s'appelle, si je me souviens bien, Koronimus Kalman Ben Rabbi Aaron Alevi Epstein. C'était une famille d'Espagne, des Lévis d'Espagne, qui ont finalement émigré jusqu'en Lituanie et qui ont pris le nom de Epstein, qui est un nom goy absolu, qui était le nom du seigneur du village où ils habitaient. Comme par exemple les Horowitz du sud de la Russie. C'était aussi des Sfaradim arrivés là-bas. Et ils ont pris le nom de Lévi Horowitz, comme cela s'appelle Lévi Epstein. Donc, et dans cette famille, c'était des grands chamim de Vilna, il y a en particulier le Rav Epstein qui est l'auteur du Torah Tmima. Vous savez qu'est-ce que c'est que le Torah Tmima? Non, vous n'avez pas encore expliqué. Bon, vous y arriverez en bibliographie. La prochaine fois que je me servirai, le Torah Tmima c'est ce livre-là. C'est-à-dire c'est une édition du Chumash, je vais vous montrer ça comme ça, avec le texte hébreu, le Targum, Rashi, et les citations, quelques citations, la plupart, des Midrashim et du Talmud qui parlent de tel ou tel verset, et un commentaire du Torah Tmima lui-même qui relie ces citations à travers l'explication de Rashi au verset. Donc, alors que vous voyez, ce livre est vénérable, c'est le meilleur livre. Voilà, cette édition est de 1904 à, où ça? Je ne sais pas lire le russe, mais c'est en Russie. Je vous le dis.
Traducteur russe.
Eh bien, c'est à Vilna. Vilna en Ashkenaz. Tova Temima. Alors, il s'appelait comment ? Tant que je vois. Oui, lui, il s'appelait Baruch Halevi Epstein. Bien. Alors donc, voilà le premier principe. C'est-à-dire, il y a une forme a priori que, en fin de cycle de sa propre mise à l'épreuve en tant que tzaddik de la Midat HaChesed, Abraham va être mis à l'épreuve par la Midat HaDin. Vous vous rappelez de cela ? Bon. Rappelez-vous du verset et ce que le Midrash dit à ce sujet, le premier verset, Veha Elokim Nissa et Abraham. Et, première traduction, c'est la Midat HaDin qui a éprouvé Abraham, mis à l'épreuve Abraham. Alors il me reste là-dessus, sur ce premier point, une explication supplémentaire que je n'ai pas eu le temps de vous donner hier. Vous vous rappelez, j'avais posé la question, pourquoi le texte ne porte pas tout simplement Veha Elokim Nissa et Abraham, ou sinon en hébreu, tout le monde ? Mais il porte Veha Elokim. Alors vous allez prendre la règle. Chaque fois qu'un des noms dont se sert la Torah pour désigner Dieu dans telle ou telle intervention, à travers telle ou telle mida, et il y a 10 noms employés par le Mikra, par le texte de la Bible, 10 noms différents, ça signifie qu'il s'agit de l'intervention du Dieu unique à travers telle ou telle médiation, telle ou telle modalité d'intervention, telle ou telle mida. Okay. En particulier, habituez-vous déjà à cela. Je ne vais pas vous donner aujourd'hui la liste complète, ça serait trop compliqué au début. Vers la fin de l'année, on parlera de ça. Vous en connaissez déjà deux. Lorsque le texte emploie le mot de Elohim, il s'agit de la Midat HaDin. C'est clair ? Lorsque le texte emploie le terme de Hashem, Yudke Varke, le nom de quatre lettres, c'est la Midat HaRahamim. Okay. Je vais vous ajouter encore un autre pour que vous ayez la trilogie. Et lorsque le texte emploie le mot de El, Dieu, le mot fondamental, c'est la Midat HaChesed. Elohim, c'est la Midat HaDin. Et Hashem, c'est la Midat HaRahamim. Ça va ? C'est clair ? Alors, mais lorsque. Et il y a donc 10 noms de Dieu, j'en ai cité un hier, El Shaddai, c'est une mida particulière. Et lorsque un de ces termes qui servent à désigner l'intervention de Dieu à travers tel ou tel mida est précédé de He, l'article du Vav, par exemple Ve Hashem ou bien Ve Ha Elohim, alors le Midrash explique, la formule que vous allez prendre, c'est ou Ve. Ça veut dire que le texte fait allusion à lui avec son tribunal. Vous ou Bet Dino. Vous suivez ? Vous, lui ou Bet Dino. Bet Din, un tribunal. Quand il y a Veha Elohim, comme par exemple ici, ou bien Veha Shem. Alors, à quoi se correspond ce tribunal d'en haut ? Alors, on en a touché un mot hier pour la fonction du Satan dans le tribunal. Vous vous rappelez, c'est le Satan dans le tribunal, c'est qui ? L'accusateur public. Vous vous rappelez de cela ?
Et on
avait dit aussi 10 Paraditrak. La s'appelle Paraditrak. Alors, il y a 10 niveaux de la Midat HaDin. Chaque Mida a 10 niveaux, puisque les autres niveaux se reflètent l'unité. Okay ? C'est clair ? Par exemple, nous avons, dans la Midat HaChesed, il y a un des niveaux qui est le Din de Chesed. Dans la Midat HaDin, il y a un des niveaux qui est Chesed de Din. Bon, ceux qui seraient bien familiarisés avec tous les versets du Tanakh, vous enrichirez ça par tel ou tel exemple. Vous savez comment, traditionnellement, on apprenait la Torah. Jusqu'à l'âge de 5 ans, on apprenait tout le Tanakh par cœur. Je suis passé par là, je dois vous dire, c'est pas grave. Okay, faut le faire. Après, jusqu'à l'âge de 12 ans, toute la Mishnah par cœur. Et après l'âge de 12 ans, on commençait la Gemara. Vous voyez comment ça marche. Vous avez du temps à rattraper. Alors rassurez-vous, Rabbi Akiva a commencé à 40 ans, il est allé très loin. Alors vous allez me dire, je suis pas rappelé avec ça. Qu'est-ce que vous en savez? Je reviens. Donc s'il y a Veha Elohim dans notre cas, ça veut dire vous ou Bet Dino. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce Bet Din Shel Mahla? Vous comprenez l'expression? Le Bet Din Shel Mahla. Le Bet Din Shel Matin, on sait ce que c'est. Okay, on fait la queue, on le renvoie trois fois, vous connaissez cette histoire. Alors le Bet Din Shel Mahla est composé des Sarim. Est-ce que c'est un Sar? Un prince. Alors nous avons déjà appris ça une fois, mais je le reprends. Et chaque nation a son Sar. C'est-à-dire, je reprends la définition que nous avons eue à ce sujet, chaque manière d'être homme correspond à un aspect du projet de Dieu pour l'homme. Puisqu'il s'agit du Dieu un, son projet est universel. Et par conséquent, indépendamment de la relation directe qu'il y a avec Israël en particulier, il y a aussi une relation avec chacune des nations. Cette relation avec chacune des nations est appelée le Sar de chaque nation. C'est clair ? Donc, alors, on va se servir un peu de l'analyse en français. Je crois que le terme de génie est le plus approprié. Chaque nation a son génie, premier sens. Le génie culturel, le génie spirituel, le génie de civilisation. Mais en français, le mot de génie a aussi le sens d'un ange. Ici, il s'agit d'un archange, mais enfin, on ne fait pas de l'angéologie maintenant. Alors, on comprend que chaque sar, c'est la volonté de Dieu un pour telle manière d'être homme en particulier. Donc c'est Dieu lui-même, mais à l'indice de telle ou telle manière d'être particulier. Vous suivez? C'est bien clair jusque-là? Et par conséquent, lorsqu'un problème met en jeu l'histoire de la destinée de l'universel humain, le jugement se fait au tribunal d'en haut. C'est clair? Ça veut dire qu'ici, toutes les nations du monde sont concernées. Est-ce qu'Abraham est tzadik ou pas? Alors, cette mise en jugement, mise à l'épreuve, se fait par Veha Elohim, c'est-à-dire vous ou Bet Dino. Ça nous permet d'avancer, ce midrash. C'est clair pour tout le monde, ce que je dis là? Et ces sarim apparaissent quand? Dans l'histoire que nous avons déjà étudiée dans le livre de Bréchit. Faites travailler ce qui vous sert de cervelle. Hein? Bah. Non. Non. Je ne parle pas des anges en général où ça apparaît. Hein? Je parle des sarim dont je parle, les représentants des intérêts des différentes nations au tribunal céleste. Très bien. Alors explique. Voilà. Tant que l'humanité était une, ces sarim n'apparaissent pas, n'ont pas d'objet. Il y a un lien direct à la manière du lien pour Israël par la suite avec l'humanité entière. Okay? Quand l'humanité a éclaté en Goïm, alors ça fait apparaître, a posteriori, c'est clair ce que je dis là? Bon. Alors là, puisqu'on a parlé de cela, je vais quand même ajouter un principe important. Vous allez avoir une définition simple de qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie. C'est-à-dire, c'est quand une nation adore son sar au lieu d'adorer Dieu lui-même. Vous avez compris? Okay. Il y a une idolâtrie authentique. C'est quand les nations adorent leur sarim. Oui. Je vais vous parler du général de Gaulle. C'est un homme qui m'a beaucoup impressionné. Vous êtes contemporaine? Oui. c'est un ennemi d'Israël trois fois. En fait, c'est un autre problème, c'est un très grand homme. Alors, quand par exemple, vous décryptez, vous avez lu les mémoires de Gaulle? Vous savez comment ça commence? La première phrase, c'est « Je me suis toujours fait une certaine idée de la France ». Vous vous rappelez de ça? Pour lui, la France, c'est une entité spirituelle, le Sar de la France. C'est clair? Voilà, ça suffit comme ça. Et là, c'était vraiment un monarque, de Gaulle. Si on était dans un temps culturel de la monarchie, il aurait été roi de France, sans problème. Je pense que c'est clair. Je crois qu'on l'appelait Charles VII, d'ailleurs. Et là, il avait d'ailleurs une certaine idée de lui-même. Il se considérait comme le représentant de ce tsar sur terre. C'est-à-dire, il y a les rois, il y a les rois des rois, c'est les tsarims, et il y a le roi des rois des rois. Vous comprenez maintenant pourquoi cette expression est à trois niveaux, ok? Melech, Malché, Amalaché. C'est clair? Et à propos, je voudrais vous faire une remarque dans la façon dont vous chantez le Shalom Aleichem du vendredi soir. J'ai remarqué ça au début de l'année et j'ai jamais eu le temps de vous le dire. Vous faites une confusion entre deux mots, Malachim et Melachim. Qui va me dire la première phrase du Shalom Aleichem? Un seul et lentement. Shalom Aleichem. Acharet. Non, Achalom, ça commence avec le deuxième couplet. Mi Melech. Malché Amelachim. Vous n'avez aucune idée comme c'est difficile d'entendre des fautes d'orthographe pendant la prière et on ne peut pas intervenir. C'est Melachim à la forme construite, comment on dit ? À l'état construit. Mais Melech, le roi des rois des rois. Malché à Melachim. Ce qui vous trompe, c'est le mot de Malaché à Chalet. Malaché. C'est l'état construit de Malachim avec un alaf dedans. Malachim. Okay. Vous y êtes ? Ça, ça veut dire les anges. Malach, un ange, un envoyé. Malachim au pluriel. Mais il y a un alaf dedans et c'est Malachim. Là, c'est Mimelech, Malché HaMelachim, les rois. Ça va mieux? Alors, retenez bien ça et ne faites plus de faute. Alors, la première phrase, Shalom Aleichem, on dit Malaché HaSharet. À partir de la deuxième phrase, Boachem Neshalom, on dit Malaché HaShalom. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Dans la première phrase, on prend congé des Malachim de la semaine. Il s'appelle les Malaché à Charette. Charette, ça veut dire quoi? Les charrettes.
De service.
De service. Un charat, c'est un serviteur. Bon effet. Alors, Malaché à Charette, les anges du service, c'est-à-dire du service de la gestion du monde pendant la semaine. Okay? Et on accueille les Malaché à Shalom, qui sont les Malachim du Shabbat. Alors, on a dit Boachem le Shalom, Malaché à Shalom. Alors qu'on dit Shalom Aleichem, au Malaché HaSharet. C'est clair?
Daniel, il fait une fois, par exemple. Et il y en a, ils font trois fois.
En principe, on devrait faire trois fois. Comme on ne veut pas trop vous.
Alors, pourquoi vous faire trois fois?
Parce qu'on est toujours devant un tribunal de trois juges. Bon, je vous ai dit trop vite, mais enfin, c'est ça, peut-être. On est toujours devant un tribunal où il y a l'Amidata Chesed, l'Amidata Din et l'Amidata Raham. Ok? Alors, dans le rite même, on se tourne chaque fois d'un côté de l'autre. Ça, vous aurez le temps de vous familiariser. Okay? En principe, le rite, c'est que c'est trois fois chacun. Bon, ça va jusque là? Donc, alors, ne faites plus cette faute, c'est très désagréable pour vous-même, d'ailleurs. La partie qui est d'Israël en vous se sent mal. Alors, rappelez-moi de quoi je parlais avant, les Sarims. Okay? Ça veut dire que ce tribunal des Sarims, qu'on appelle aussi le Sanhedrin Shel Mala, le mot de Sanhedrin, ça vient d'un mot grec qui signifie le tribunal suprême. Et vous savez d'ailleurs que le Sanhedrin, tribunal suprême, c'est Sunedrian en grec, c'est devenu Sanhedrin en hébreu. Oui, Sanhedrin en hébreu. Était composé de 70 juges, plus le Nassi, le président du tribunal, et le Havbeddin, et le chef du tribunal. Le Nassi, le président du tribunal, représentait le pouvoir civil, et le Havbeddin, le pouvoir religieux. Si vous voulez, le Nassi était à la place du Melech, et le Havbeddin, le chef du tribunal, était à la place du Kohen Gadol. Parce qu'il s'agit du temps, c'était les Sadducéens qui avaient pris le pouvoir. Alors les pharisiens avaient constitué un Sanhédrin dans leur ghetto à travers la Judée sadducéenne, où le Nassi représentait le vrai Meller et le Harbedin le vrai Cohen. Parce que dans le pouvoir officiel, le Meller était un Iduméen et le Cohen Gadol un Sadducéen. Vous vous rappelez de l'époque du Deuxième Temple, okay, bon. Donc finalement, le tribunal suprême d'en bas reflète la structure du tribunal suprême d'en haut. C'est-à-dire, ça nous allons apprendre plus, rappelez-moi, dans la nuit d'études qu'on aura jeudi soir à propos du Kriyat Shema, vous verrez, c'est que lorsque le tribunal suprême d'Israël se rassemble, eh bien, il rassemble 70 juges, et la règle était que chacun de ces juges devait connaître, bien sûr, la Torah, mais devait connaître aussi une langue d'une des nations et sa religion correspondante. De telle sorte, vous suivez bien, c'était pas n'importe qui, un membre du Sanhédrin. Okay, de telle sorte que, lorsque le Sanhédrin se rassemblait, l'humanité entière se rassemblait derrière ces juifs. Vous comprenez le problème? C'est ce thème-là qui a été pris par le pamphlet que vous connaissez, qui s'appelle « Les protocoles des sages de Sion ». Vous connaissez ça? Avec l'accusation d'antisémitisme, qu'il y a une mafia, un complot des juifs pour top. Et très souvent, malheureusement, d'ailleurs, les juifs passent leur temps à justifier ces choses-là. Mais enfin, c'est un autre problème. En tout cas, on revient à notre question. Voilà comment est structurée l'unité de la multiplicité. La multiplicité, c'est les 70, et puis c'est rassemblé autour de l'unique. Vous avez compris maintenant cette dialectique-là. Et alors, au tribunal céleste, eh bien, chacun des sages, des sarim, a à charge les intérêts du peuple dont il est le sage. Alors, chaque fois qu'il y a une mise en question qui intéresse d'emblée l'humanité entière, alors ça se traite dans cette mida qui s'appelle Veha Elokim, Hu ou Beddin. Et dans cette tribunal céleste, il y a un accusateur public, et c'est le sar de Esav, d'Esaü, retenez bien ça, de Edom, l'antagoniste de Jacob. Okay. C'est lui qui s'appelle le Satan. Au tribunal, nous verrons qu'il y a le Satan. C'est le sar de Esav. Ça veut dire c'est Israël qui est jugé. Ici, nous avons un jugement à la racine, au niveau d'Abraham. Est-ce qu'il est tzadik ou pas? Vous vous rappelez? Alors, qui se fait l'accusateur public? Évidemment, l'adversaire, l'ennemi intime, je ne sais pas comment on dit, c'est Esaü. Dans cette situation, dans ce matzav, de la mise en question de la qualité tzaddik d'Israël, ici à la racine c'est Abraham, le Satan a d'autres fonctions. Okay, il y a sept niveaux, on les apprendra un jour aussi. Quand je vous dis un jour, ça peut être dans 40 ans, c'est pas grave. Okay. Alors, vous comprenez donc ce premier midrash. La mise en question du doute possible, c'est formulé par les paroles du Satan à l'échelle de l'humanité entière. Alors comprenez la mise à l'épreuve d'Israël à l'échelle de l'humanité entière. D'une certaine manière, nous sommes donnés à cette épreuve. Vayhi, Ahar, Adevarim, Aele, lorsqu'arrive, pour quelque raison que ce soit, cette occurrence que peut-être il va falloir mettre en question l'intégrité d'Israël, alors ce sont ces paroles-là qui sont formulées, et donc, conséquence, Karnaï, Bitraï. Vous avez suivi? Bon. Ça, c'était le premier message. Qu'est-ce que tu voulais dire, et après nous allons prendre le deuxième? C'est passé. T'as fait rien, ça nous intéresse. Dis-nous déjà. Non, c'était quoi le mot?
C'était à propos des mêmes
paroles. Vous avez essayé. Alors, le deuxième midrash, c'est, vous vous en souvenez bien, les paroles d'Ishmaël. Alors, je vous ai expliqué ce midrash. Vous l'avez vu déjà avec Rivon, je suppose. Oui? Vous l'avez vu ou pas? Oui. Alors, prenez-le quand même dans Rashi. Prenez Rachid depuis le début du verset 1 avec moi, suivez sur le texte de Rachid en hébreu, et je vous traduis simultanément. Yesh merabotenu omrim, certains de nos maîtres disent, suivez sur Rachid, premier verset du chapitre 22. En hébreu, suivez, pas en français. Donc, Yesh merabotenu omrim, certains de nos maîtres disent, et c'est dans Sanhedrin, page 89, Achar devarav shel Satan, après les paroles du Satan. Shehaya Mekadreg, Giyat, tu suis pas? Montre-le. Tu n'as pas de livre, toi? Sheria Mekatreg, qui accusait, Véomer, Mekatreg, ça veut dire le fait d'accuser. Le terme, c'est catégore, un accusateur. Ça vient du grec. Vous retrouvez quel mot français dans catégore?
Catégorique.
Catégorique, okay, exactement. Alors, Sheria Mekatreg, Véomer, il disait, Mikol Skouda, de tout le festin, chez Asa Abraham, que Abraham a fait, Lo Ikrib Lefanecha, il n'a approché de toi, ça veut dire sacrifié, par Echad ou Aïl Echad, ni un par c'est un bœuf, okay, ni Aïl ni un bélier. Amarlo, Dieu lui a répondu, Klum Asa Ela Bishvil Beno, il ne l'a fait que pour son fils. Ilu Haïti Omerlo Zebachoto, si je lui avais dit, sacrifie-le, Lefanaï devant moi, Lo Hayam Erakev, il n'aurait pas hésité. Voilà le premier midrash. Okay. Alors, quel est le sens que nous avons atteint? C'est la mise en question de l'identité d'Israël, ici à la racine, au niveau d'Abraham, par l'universel humain. Il y a une mutation d'identité qui va se passer. Et le foyer de la providence passera par Israël, réclamation de l'universel humain. On veut savoir si c'est vrai que quelque chose de nouveau apparaît à partir d'Abraham. Vous comprenez, ça peut être dit de manière différente. Okay. Alors, dans le langage des nations, ça veut dire la mise en question de ce qu'ils appellent, eux, l'élection d'Israël. Vous êtes le peuple élu, on va bien. Vous suivez? Donc, ça c'est le premier midrash, c'est clair? Bon. À l'intérieur de cette mise en question, de ce jugement, il y a un cas particulier. C'est celui d'Ishmaël, qui est précisément le rival direct de Isaac. C'est clair? Alors, deuxièmement, Veyesh Omrim, et certains disent, suivez sur le texte, Ahar Devarav Shel Ishmaël, après les paroles d'Ishmaël, Sheaya Mitpaer, qui se glorifiait, Al Israq, face vis-à-vis d'Israq, Shemal Ben Shloshesre Shana, parce que lui, Ishmaël, avait été circoncis à l'âge de 13 ans, Velo Micha, et il ne s'est pas opposé, Amarlo le Yitzhak, et il disait à Yitzhak, Be'ever Echad, Ata Meyareni. Non, c'est la même, je me suis trompé. Amarlo Yitzhak, Yitzhak lui a dit, pardon, là il y est pas, et là il y est, en français, non, c'est qu'il est en hébreu aussi alors. Bon, vous l'avez pas, alors je vous le lis. Oui, je crois que pour l'année prochaine, on pourra venir des livres complets. Alors. Pour l'année prochaine, c'est pas vous. Bon. Vous savez rien. Alors écoutez, voilà ce qui se passe. Et Rivon, vous l'avez cité, ce midrash?
Oui.
Oui, bon, alors je vais vous reprendre dans le texte. Alors, Ishmaël se glorifiait vis-à-vis d'Israël en disant, moi, j'ai été circoncis à l'âge de 13 ans et je n'ai pas refusé. Ça veut dire, c'est lucidement, en toute autonomie, ayant accepté, ayant adhéré, que je suis devenu le fils d'Abraham, à sa manière. Okay. Tandis que toi, tu avais 8 jours, on ne t'a pas demandé ton avis. Okay. Fais ta preuve que tu mérites ça. Vous suivez? Bon. Et vous entendez là une autre manière de la contestation des nations, qui se réclame en disant, vous, c'est Israël de la chair, par hérédité, vous n'y êtes pour rien. Donc, nous, on a adhéré adulte. Vous comprenez la contestation? Bon. Alors, Amarlo Yitzhak, Isaac lui a répondu, Be'ever Echad Ata Miyareni, c'est par le sacrifice d'un membre que tu te compares à moi, Ani, moi, il ou Amarli Akadolorch, si Dieu m'avait dit, Zebach Atzmecha, sacrifie-toi, Lefanaï, devant moi, Lohaiti Merakev, j'aurais pas empêché. Et vous rappelez, sur la fin du Midrash, ce que je vous ai dit à ce propos, pour Yitzhak, ça va de soi, il n'y a pas de difficulté, c'est clair? Est-ce que c'est bien compris le problème? Ça veut dire ici, se cristallise cette contestation entre Ishmaël et Yitzhak. C'est-à-dire, le premier midrash, c'est la contestation de l'universel humain vis-à-vis d'Abraham. Le deuxième, c'est la contestation de l'universel humain vis-à-vis d'Yitzhak. Et ça, c'est les paroles d'Ishmaël. C'est clair? Pourquoi le midrash ajoute? Et le Satan, c'est pas seulement Saro chez l'Esav, c'est aussi Saro chez l'Ishmaël, à ce niveau-là. Et réfléchissez bien par vous-même que comment Israël est donné, semble-t-il a priori, à ce risque de la mise en question à cause de la contestation qui est formulée à un certain niveau par le Satan, à un certain niveau par... Le Satan, c'est le porte-parole de l'ONU. Et puis, à un certain niveau par Ishmaël, et vous savez qu'ils ont des entretiens secrets, ces deux-là. C'est clair. Bien, voilà. Et donc, pour le Vayhi, Ahav, Devaru, Ahel. C'est-à-dire, c'est arrivé historiquement, ponctuellement, de cette manière au temps d'Abraham et d'Isaac, mais ça nous dévoile un thème permanent que, à une certaine occurrence, si les causes immédiatement précédentes jouent, alors cette situation apparaît. C'est bien clair ? Mais retenez bien, je le dis tout à l'heure et je le répète, je vous le répéterai quand on l'étudiera, c'est pas une raison, parce que ça, c'est séduisant comme comparaison, de tomber dans ce piège en disant, eh bien, la Shoah, c'est quoi ? C'est la Rakedat Yitzhak. Ça, les chrétiens se frottent la main. Frottent les mains. Et comme on sait, les mains, ça appartient à Ésaü. Il y a un verset pour ça, vous le verrez plus tard. C'est la voix qui appartient à Jacob. Vous vous rappelez du verset ? Bon. Alors, comme disait je ne sais plus qui, pense Pilate. Hein, je me lave les mains. C'est lui qui disait ça. Il avait les mains pures, mais il n'avait pas de mains. En tout cas, pour revenir à notre thème. Bien. Vous avez une question ? C'était sur la voie de Jacob. Okay. Bon, voulez-vous vous montrer le verset ? Bien. Alors, je voulais d'abord faire cette mise au point. Quelle question vous aviez en suspens ? Est-ce que j'ai déjà répondu à vos perplexités, inquiétudes, interrogations ? Okay. D'hier, ou pas ? Oui, dis-moi, rappelle-la. Ah oui, bon, je vais y arriver. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Vous avez fait allusion aussi à un Midrash qui dit que Abraham ne savait pas qui de lui et Yitzhak serait sacrifié.
Oui.
Mais dans le texte, ça a l'air plutôt assez clair.
Par exemple.
Regardez.
Comment ?
Ils marchaient tous deux ensemble.
Oui, exactement. La première fois, Vayelechu Shnei Yahdav, c'est au verset. À la fin du verset 6. Okay. Alors, ici, qu'est-ce que nous dit Rashi ? Ou c'est sur l'autre ? Vous l'avez, la première fois à la fin du verset 6 et la deuxième fois à la fin du verset 8. Très bien. Alors prenez Rashi à la fin du verset 8, à la fin. Vous allez me dire si vous avez ce que je vais vous lire. Vafralpi chez Evin Yitzhak, et bien que Yitzhak ait compris chez Ouoler Lishachet, que c'est lui qui allait au sacrifice, Vayelechu Shneihem Yahdav, ils allèrent les deux ensemble, ça signifie Belev Shaveh, d'un même cœur. Ça, c'est la fin du verset 8. Vous avez ce Rashi ? Bon. Alors, je vais vous expliquer. Dans le premier Vayelechu Shneihem Yahdav, ils allèrent ensemble, les deux ensemble. Là, Abraham pense que c'est peut-être lui. Et dans le deuxième, Isaac a compris que ce serait lui. Parce qu'entre-temps, il prend conscience du fait que c'est lui qui porte les voies du sacrifice. Vous verrez dans le... Bien. En réalité, ce midrash se heurte non pas tellement à cette difficulté-là, mais à la difficulté du premier verset. Dans le premier verset, il dit très clairement, verset 2, il est dit clairement, prends ton fils et amène-le-moi en Ola. Alors là, je vais vous citer le Malbim, puisqu'on a parlé de cela. On n'apprend pas du tout dans cette phrase que Dieu a demandé que Abraham sacrifie son fils. Parce que l'expression c'est « va aller ou sham le'ola », fais-le monter là-bas en ascension. Okay. Il y a un des sacrifices qui s'appelle la Ola, et qu'on traduit par l'Holocauste d'ailleurs en français, ça veut dire un sacrifice qui est fait complètement et qui monte en fumée, si j'ose dire. Et, mais l'expression de la Torah pour dire faire un sacrifice de Ola, c'est jamais Alo Ola, c'est Asso Ola. C'est une remarque du Malbim qui est très importante pour voir la suite. C'est-à-dire que Abraham n'a pas entendu vraiment ce que Dieu lui demandait, il l'a entendu à la manière dont les hommes pieux de ce temps entendaient. C'est clair ? Vous avez compris l'idée ? Sinon, je donnerai un autre exemple. Bon. Je vais essayer, bon, c'est uniquement au niveau d'une question de vocabulaire. Et si je dis en français, amène-moi ton fils en sacrifice. Okay. Si j'entends ça dans la mentalité chrétienne, ça veut dire qu'il va aller sur la croix. Okay. C'est clair. Bon. Si j'entends ça en hébreu, ça veut dire sanctifie ton fils. Vous avez compris la différence ?
Autrement dit, on pourrait comprendre cet épisode comme le passage réel d'un mode de pensée à un autre.
Complètement. C'est exactement ça. On y a fait allusion un petit peu hier. Absolument. Et c'est très clair. Okay. Et rappelez-moi que mercredi, je vous donne une référence, il faudrait que je la cherche, d'un verset des prophètes, Jérémie, qui dit très exactement, quand j'ai parlé à Abraham, votre père, je ne lui ai pas demandé de sacrifier son fils. C'est dit très clairement. Okay. Parce qu'il y avait des juifs pieux, enfin des hébreux pieux de l'époque, qui croyaient que ça fait bien des sacrifices comme ça, c'est très pieux. Alors il fallait que les prophètes interviennent pour dire, vous n'avez rien compris. Vous avez compris ? Donc. Alors maintenant, je vais vous poser une question qui revient un peu sur certaines questions que vous m'avez posées. Prenez le verset 5.
Au sujet de la réflexion sur la Shoah, et on considérait que c'était le sacrifice, un autre sacrifice. C'est pour ça qu'on traduit Holocauste.
Oui, et d'ailleurs, c'est une traduction épouvantable, blasphématoire. Parce que dans un sacrifice, admettons par hypothèse le sacrifice d'Isaac non accompli, d'abord il a été accompli celui-là, vous comprenez que l'analogie n'est pas possible, mais dans le sacrifice d'Isaac, le sacrificateur, la victime était consentante et joyeuse, alors que cette espèce de barbarie qui s'est passée, ça n'a rien à voir, c'est un crime qu'on essaye de transfigurer en holocauste. Alors ça déculpabilise l'Europe, vous avez compris le problème, bien. Et le théologien chrétien va intervenir. Vous avez sauvé l'humanité en vous offrant un sacrifice. Alors, continuez. C'est ça le problème.
Et Shoah,
Shoah, ça veut dire catastrophe. Shoah, c'est catastrophe. Et on a d'abord employé le terme de Horban, qui signifie destruction. Horban. Les contemporains de la Shoah appelaient ça le Horban, par analogie à la destruction du temple. Horban. C'est la racine qui signifie mettre en ruine, harev. Harev, c'est l'épée. Okay. Et puis finalement, on s'est servi d'un mot qui est dans les prophètes et qui est Shoah. Catastrophe de destruction. Dévastation, plus exactement. Jamais dans la mentalité juive, on aurait pensé à définir ça comme un sacrifice. Ça, c'est la mentalité goy qui a projeté ça là-dessus. Alors vous avez tous ces auteurs juifs qui se gargarisent avec le nom de l'Holocauste. Vous avez compris la gravité du problème. Et rares ont été ceux qui ont réagi contre, et parce qu'à l'époque, juste après la Shoah, on parlait très, très rapidement, les Juifs ont pressenti cette espèce de traumatisme de conscience du monde chrétien. Quand le monde chrétien s'est aperçu de quoi il s'agissait, alors ils étaient prêts à nous ouvrir les bras, et alors les Juifs se disaient, bon, si déjà ils ouvrent les bras, ne les refermez pas. Okay, vous comprenez ce que je veux dire ? Alors pour amadouer les chrétiens, on ne voulait pas réagir. Mais quand même, beaucoup de rabbins ont réagi violemment en dénonçant le complot qu'il y a derrière. Ça veut dire, voilà, vous avez les stampiles candidats au sacrifice, continuez, c'est ça qui sauve le monde. Vous avez compris la gravité du problème. Vous êtes l'agneau du sacrifice. Bon, je vous ferai lire un texte en particulier d'un père dominicain qui sévit à Jérusalem, il s'appelle le père Dubois, et qui a écrit un texte avec énormément de précautions, en marchant sur des œufs de Pâques, vraiment avec une politesse extraordinaire, mais pour dire en clair exactement ça, et bien maintenant, vous comprenez qu'est-ce que c'est que la passion du Christ. Ça veut dire, votre Shoah, ça nous renforce dans notre foi. C'est le peuple juif qui doit être mis sur la croix pour sauver le monde. Camarade, vous avez compris le problème ? Donc, allez, on revient à notre... Comme si ils n'avaient pas le choix.
Excusez-moi. Quel ? Sur l'amour là, vous avez dit, vous pouvez leur dire ton fils que je sanctifie.
Oui. Ce qu'Abraham a entendu, c'est offre-le en sacrifice. Ce que Dieu lui a dit, c'est sanctifie-le. Les termes que j'emploie sont très approximatifs. En hébreu, quand vous serez plus habitué à l'hébreu, vous verrez la différence entre rasso orla et ralo orla. Un des midrashim dit qu'est-ce qu'il voulait lui dire ? Envoie-le à la yeshiva. Alors, Abraham a compris, la yeshiva d'en haut. Vous avez compris le problème. Bon, c'est ce que Claire a dit tout à l'heure. Abraham a réagi en entendant cette mitzvah dans la halakha des goyim. C'est clair ? Voilà. Et c'est là qu'est la bifurcation. En toute bonne foi. Parce que Dieu lui demande, je t'en prie, montre-leur que tu peux faire aussi comme eux.
Alors, c'est clair ? Parce qu'on a l'épreuve, elle est dans la rêve.
Très bien. L'épreuve est dans la rue. C'est pourquoi l'ange lui dit, ne lui fais surtout rien. Vous avez compris comment ça marche. Parce que c'est une terrible épreuve de sacrifier son sacrifice. Vous avez compris ce que je veux dire ? Okay. À partir du moment où on est prêt à un sacrifice, Dieu dit, eh bien, surtout ne le fais pas. Alors, le vrai sacrifice, c'est de sacrifier son sacrifice.